GAFA, Apple, etc., etc., faisaient partie de cette contre-culture-là et voyaient dans ces outils-là, on va dire, une utopie sociale et puis des espaces d'émancipation pour, j'allais dire, l'intersubjectivité, le subjectif.
Ce fut la cooptation absolue du mouvement hippie.
C'est ça. Et qui ouais, reprenait et puis aussi des thèses philosophiques sur la souveraineté de l'être, la recherche aussi à l'intérieur, donc aller puiser dans l'intimité de soi et à travers la notion du cosmos aussi et une dimension aussi peut-être à rapprocher, à, je sais pas, peut-être des nouveaux matérialistes maintenant sur une énergie peut-être plus intersubjective et globale, quoi.
Sinon, moi j'ai une question pour vous quand même, les chercheurs, chercheuses. Comment percevez-vous la notion de temps et d'espace dans votre recherche-création? Vous qui êtes praticien, praticienne, comment le numérique modifie-t-il ou devient-il un élément inévitablement important dans votre rapport au temps et à l'espace dans le processus de recherche-création? C'est une question très ouverte, là.
Marjolaine Bélan.
Par rapport aux outils, il y a toujours un délai pour la personne qui est engagée dans une recherche-création de type recherche universitaire. Il y a toujours une espèce de conflit où on doit à la fois se mettre à jour au niveau des concepts, de faire une lecture. Et puis, quand on arrive pour faire notre recherche, ben, notre création, bon, il y a toujours cette frustration d'être dépassé par les nouveaux outils au niveau du numérique, surtout si on travaille en art numérique, mais les outils, programmation, tout va tellement vite, on est dépassé aux 3 mois, aux 4 mois. Donc, c'est très, ça c'est un rapport, ça c'est un rapport difficile, là. Voilà, et puis ça c'est sans compter la désuétude des équipements. Après, quoi faire? Se rabattre, revenir en arrière dans notre recherche. Dans le cas de l'animation que j'ai fait, évidemment, ce n'est pas les technologies les plus récentes. J'ai fait ce choix-là. J'ai travaillé le glitch en sachant que le glitch, bon, c'est une façon d'aborder, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin au niveau de la programmation, puis au niveau de la formation des particules, du génératif. Mais à un moment donné, on ne peut pas, enfin, moi, personnellement, peut-être qu'il y a d'autres qui vont pouvoir. Moi, je vous livre ma vulnérabilité à l'écran. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, de le mener à bien au niveau d'abord d'être à fine pointe des technologies, des assumer eux-mêmes, d'avoir une recherche intéressante, singulière, et de l'inscrire dans un cheminement universitaire. Enfin, pour moi, ça reste de plus en, ça devient de plus en plus difficile. Voilà, au niveau du temps. Je sais pas si ça répond à ta question, Élégante.
Ouais, moi, je pensais entre autres au manque de temps, mais là, tu l'abordes, c'est que le temps s'accélère. Mais en fait, en termes d'outils technologiques, je me dis à l'écoute de ce que tu viens de nous partager, Marjolaine, qu'il y a quand même des cultures où les gens n'ont pas du tout les moyens qu'on a pour créer. Et puis, ils ont des ordinateurs qui ont 15 ans ou 20 ans, puis ils peuvent faire des choses très, très bien avec des vieux ordinateurs qui, évidemment, sont de nature très différente de ce qu'on peut faire avec les machines plus puissantes et plus modernes. Mais je pense que la qualité artistique n'est pas dépendante nécessairement de la vétusteté de la machine.
Bien sûr, bien sûr. Mais là, on s'inscrit, tu disais espace-temps, on s'inscrit dans un environnement quand même social, économique. Puis je pense pas que ce qui peut être exotique fait dans un autre contexte peut-être pas être nécessairement bien accepté dans un autre milieu, un autre réseau, enfin.
C'est sûr que les pays impérialistes et riches ont tendance à vouloir magnifier ce qu'ils produisent, hein, au détriment des autres. Je pense qu'on n'en est pas sorti de cette attitude colonialiste, mais ça, c'est une autre histoire.
Lynn Hughes.
C'est un réel problème. Premièrement, Eric, vous avez raison qu'on peut faire des choses, peut-être pas nous, mais on peut faire des choses très intéressantes avec peu de moyens, mais il reste que ça peut être très frustrant parce que, par exemple, moi, en ce moment, j'ai juste fait un projet où je veux faire des commentaires sur les gros jeux commerciaux. C'est un projet que j'ai vraiment envie de faire. Là, parfois, ces choses passent par ma tête, puis ils sortent, puis c'est fini. Mais là, je veux le faire. Et ça veut dire d'avoir du 3D hyper réaliste. Parce qu'on ne fait pas de commentaires sans ça, mais dans le projet que j'ai. Donc, parfois, mais on pourrait se dire, mais c'est juste parce que je n'habite pas en Afrique, mais c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est une bonne chose de vouloir faire des critiques de ces choses-là. Et si ça prend des moyens,
En fait, on prend les moyens qui sont à notre disposition. Alors, puisque nous, on les a, c'est certain qu'on peut les prendre. Mais c'était juste pour dire que si on utilise d'autres moyens, c'est pas nécessairement mauvais non plus, mais ça va donner, bien sûr, un projet complètement différent.
c'est peut-être un peu de dissocier aussi l'esthétique. Il y a des esthétiques, des types d'art qui se font, qui demandent certaines. Mais si tu t'inscris dans cette esthétique-là, évidemment, tu es obligé d'avoir les moyens technologiques qui vont avec.
Je pense que c'est là que tu...
C'est pas juste une question
Tout à fait.
d'idées ou de concepts, mais c'est qu'il y a un désir de s'inscrire dans une certaine recherche technologique aussi.
Mais je pense que dès qu'on parle d'esthétique, c'est ça. Là, on est dans ce paradigme-là, mais si on prend les idées d'Alfred Gell sur la gentilité, qui finalement nous propose de nous débarrasser du paradigme de l'esthétique pour considérer les objets d'art de manière plus objective, en termes d'agentivité, qu'est-ce qu'ils signifient dans le contexte où ils se trouvent et dans le contexte dans lequel ils sont produits. À ce moment-là, on a une science, en tout cas une méthode, qui nous permet de comprendre de manière beaucoup plus large les gestes artistiques qui se posent à travers le temps et à travers l'histoire et à travers les différentes cultures. Parce que dès qu'on parle d'esthétique, bien évidemment, là, il y a des systèmes hégémoniques qui se mettent en place. Il y a des modes, il y a toutes sortes de phénomènes qui font en sorte que toute une série de travaux vont être rejetés au détriment d'autres travaux. C'est
Et
pourquoi je parlais de...
je reviens à l'idée que si on veut faire des commentaires, si on veut ces choses, pour prendre le 3D, pas nécessairement les jeux de 3D, c'est très, très puissant. C'est en train de rouler sur le monde. Et avec ça, il y a un réalisme qui est très simpliste et tout ça. Et d'autres problèmes, on les connaît. Si on veut s'insérer là-dedans en tant qu'artiste et non comme écrivain, il n'y a pas sans moyen de le faire. Là. Il faut quand même prendre les moyens pour parler directement à cette chose-là.
Adanta Gagnon.
En fait, c'est juste dans cette continuité-là, là, avec Marjolaine puis Lynn, qui nomme. Moi, j'ai une pratique aussi dans le domaine des arts cinématographiques depuis quelques années dans les arts numériques. Puis c'est sûr que j'ai comme de voir les outils qui étaient possibles ou offerts aux cinéastes de l'Office national du film dans les années 60. Il y a quand même une jalousie pour les créateurs d'aujourd'hui où est-ce qu'ils doivent travailler avec des micro-budgets, micro-équipes, puis ils essaient justement de faire des œuvres qui ressemblent aux œuvres des années 60, mais avec des modes de production complètement différents, avec un stress financier qui n'existait pas, mais qui était autre. Puis aussi, j'ai des amis qui sont dans le domaine du jeu vidéo qui me disent les budgets phénoménales qu'ils ont pour produire des cinématiques de jeux vidéo qui on peut même pas comparer dans l'univers du cinéma. Fait qu'il y a vraiment justement toute une transformation de l'accès aux moyens de production, qui est pas juste les moyens techniques, mais aussi les moyens financiers, puisque ça revient au capitalisme de notre époque. Mais puis c'est aussi, tu sais, comme c'est pas le savoir technique. En ce moment, ce n'est pas un savoir technique qui est limité à une personne. En ce moment, on travaille beaucoup en gros groupe, même dans les projets numériques. Mais il faut réussir à payer tous les gens avec qui on travaille. Fait que des fois, tu n'as pas les connaissances techniques, mais tu amènes dans ton équipe des gens qui ont ces connaissances-là. En fait, tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'une dizaine de personnes avec tout le monde des capacités techniques différentes pour pouvoir faire une œuvre numérique. Fait que c'est comme difficile d'être un artiste seul à faire une œuvre numérique en ce moment. Tu as besoin de plein de collaborateurs, mais il faut les financer. Fait que c'est un peu le défi. Puis tu sais, les grandes plateformes de ce monde, que je vais nommer YouTube, mais eux fonctionnent. Ça me fait penser beaucoup à Uber, tu sais, comme de fonctionner avec des micro-créateurs, de ne pas les payer. Ces micro-créateurs-là n'ont pas de syndicat, il n'y a pas de façon de s'unir pour combattre toute la dynamique économique de ces grosses instances-là. C'est comme là la lacune. C'est pour ça que je faisais le lien avec l'Office national du film, où est-ce qu'on avait une instance relativement puissante qui pouvait soutenir les créateurs. Puis aujourd'hui, on n'a comme pas cet espace-là où je ne sais pas elle est où. Un genre de syndicat des créateurs qui pourraient se battre contre des multinationales sur lesquelles il y a beaucoup de... sur lesquelles le financement est, peut-être, en tout cas. Disons qu'il y a deux, trois pistes de réflexion là-dedans. Là.
Mais c'est, pour faire écho à ce que tu dis, parce que Lynn disait, puis je veux revenir sur ce que Lynn disait, dans le fond, Lynn, je comprends bien, puis je trouve ça intéressant, tu veux faire un commentaire sur un certain type de corpus, sur un certain corpus de production culturelle. C'est peut-être particulièrement intéressant, voire subversif, d'utiliser les mêmes moyens techniques que ceux qui ont été utilisés pour créer ce corpus-là, donc s'infiltrer. C'est une manière vraiment forte et nécessaire aussi que les artistes s'approprient ces outils-là. Et Radanta, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ça prend les moyens pour le faire, parce que sinon, tu te retrouves avec le DIY et d'autres moyens. Pauline, si tu voulais rajouter quelque chose, ou Radanta, si tu voulais rajouter quelque chose, ou Diane, ou Louis-Claude.
Oui, moi j'ai envie de rajouter quelque chose sur le temps.
Louis-Claude Paquin.
Le temps de lire et de comprendre les auteurs. Tu sais, les gens ont lu Deleuze. Oui, mais lire Deleuze, en tout cas, je ne sais pas vous, là, mais c'est une question de temps, de réflexion, de réflexion. Lire Merleau-Ponty, j'ai passé une fois 3 mois sur 20 pages. Les 20 pages les plus importantes, à mon sens, de Merleau-Ponty. Et puis, on n'a plus le temps de faire ça. On se sent coupable. Il y a quelque chose où... Et donc, on en parle. Et puis là, il y a une espèce de truc où tout le monde en parle. Les auteurs américains ont assimilé le post-structuralisme français. Est-ce qu'ils l'ont bien assimilé? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On les prend en première lecture et puis on est là, on les cite. Donc, il y a tout un... Parce que oui, il y a du côté de la technologie... Et puis, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Marjolaine, mais du côté de la recherche, si on dit que recherche, comme vous avez fait, c'est de lire et de comprendre. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai lu Deleuze », je dis « Oui, mais l'as-tu compris? Qu'est-ce que tu as compris? Quel est ton Deleuze? Et puis comprendre, c'est un geste par l'écriture. C'est pas juste de prendre des notes, c'est d'écrire sur Deleuze, écrire ce qu'on a compris de Deleuze. Donc, d'où je ramène toujours mon dada de ma découverte de la recherche par l'écriture. Je lis des textes, puis j'essaye d'écrire, puis j'invite les étudiants à faire ça. Mais ça mène pas à une thèse en 4 ans. Ça mène à des prolongations, c'est des trucs de vie, tu sais. Donc, il y a quelque chose, tout est formaté de façon à ce qu'on ne puisse pas faire ça, et donc on fait semblant de le faire. T'sais, moi, je parle de l'autre côté. Quand on est du plan technologique, bien, ça apparaît. Dans quel groupe tu veux t'inscrire, bien, il faut que tu aies telle technologie. Du côté de la pensée, on peut toujours camoufler jusqu'à un certain point, mais avec éthique, on se rend compte, quand les gens disent « Ah oui, Derrida, mais écoute, Derrida, excusez-moi, là, mais c'est quelque chose, là. » Et même de l'enseigner, de le lire, de l'enseigner avec à 65 ans, avec tout le bagage que j'ai, c'est déjà quelque chose. Et on n'a pas le temps. Moi, si je suis pas inscrit dans la recherche performative, de performer des résultats aux 2 ans, aux 3 ans, j'essaie de me contenter de comprendre, de lire, puis d'expliquer modestement ce que j'ai compris. Et puis déjà là, je suis pressé par le temps. Donc, effectivement, le temps n'est pas juste du côté de la technologie, il est aussi du côté de la machine universitaire, de la machine académique qui force le pas. Il faut tout connaître, tout savoir su. Enfin bref, vous avez saisi le topo, je vais m'arrêter ici. Mon plaidoyer.
Ben, merci, je pense que ça fait un beau mot de la fin. En attendant d'augmenter notre coefficient d'intimité avec Empédocle, Spinoza, Nietzsche, Merleau-Ponty, Simondon, Deleuze et Derrida, c'est un peu ça que tu nous invites à ça, augmenter ce coefficient d'intimité avec ces auteurs. Et puis je voulais remercier infiniment tout le monde, particulièrement nos invités, Lynn Hughes et Louis-Claude Paquin. Et merci à ceux et celles qui sont intervenus durant cette conversation aussi.
Si tu permets, juste pour finir, je veux aussi remercier tout le monde. C'était vraiment chouette. Je veux remercier Hexagram aussi d'avoir permis cette table ronde. Et puis Gabriel qui nous a aidés sur le plan technique. Non.
Discussion sur la recherche-création dans le cadre de la journée L'intimité à l'épreuve du numérique organisée par Diane Poitras. Louis-Claude Paquin, Lynn Hughes, André-Éric Letourneau, Gaël Scali, Radhanta Gagnon, André Mondou, Marjolaine Bellan. Musique, Philippe Aubert Gauthier. À la technique, Gabriel Couillard. Une production d'Hexagram.
Thank you. Listen. You smell something?
I'd call that a big yes.
I feel so funky.
Bankman, get a sample of this. This is hot, Ray.
I'm very excited. I'm very pleased. I want you to get right down there.
Smell something?
Well, certainly. Hey, everybody. You're definitely tuned in to CKUT 90.3 FM, Greater Montreal. This is Logic Johnson. That is the Durf Man. It's time for another episode of Listen. Did you smell something?
Skin. Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems